Chapitre 3. Depuis l'entrée de ses parents dans l'espèce d'hospice où ils achevaient tristement leur vie, Pierrette, jeune et fière, souffrait si horriblement d'y vivre par charité qu'elle fut heureuse de se savoir des parents riches. En apprenant son départ, Brigaut, le fils du major, son camarade d'enfance, devenu garçon menuisier à Nantes, vint lui offrir la somme nécessaire pour faire le voyage en voiture, 60 francs, tout le trésor de ses pourboires, d'apprentis péniblement amassés, acceptés par Pierrette avec la sublime indifférence des amitiés vraies, et qui révèle que, dans un cas semblable, elle se fut offensée d'un remerciement. Brigaut était accouturé tous les sourds dimanches à Saint-Jacques, y jouait avec Pierrette et la consolait. Le vigoureux ouvrier avait déjà fait le délicieux apprentissage de la protection entière et dévouée due à l'objet involontairement choisi de nos affections. Déjà plus d'une fois, Pierrette et lui, le dimanche, assis dans un coin du jardin, avaient brodé sur le voile de l'avenir leurs projets enfantins. L'apprenti menuisier, à cheval sur son rabot, courait le monde, y faisait fortune pour Pierrette qui l'attendait. Vers le mois d'octobre de l'année 1824, époque à laquelle s'achevait sa 11e année, Pierrette fut donc confiée par les deux vieillards et par le jeune ouvrier, tous horriblement mélancoliques, au conducteur de la diligence de Nantes à Paris, avec prière de la mettre à Paris, dans la diligence de Provins, et de bien veiller sur elle. Pauvre Brigaut! Il courut comme un chien en suivant la diligence et regardant sa chère Pierrette tant qu'il le put. Malgré les signes de la petite Bretonne, il courut pendant une lieue en dehors de la ville, et quand il fut épuisé, ses yeux jetèrent un dernier regard mouillé de larmes à Pierrette, qui pleura quand elle ne le vit plus. Pierrette mit la tête à la portière et retrouva son ami planté sur ses deux jambes, regardant fuir la lourde voiture. Les Lorrains et Brigaut ignoraient si bien la vie que la Bretonne n'avait plus un sou en arrivant à Paris. Le conducteur à qui l'enfant parlait de ses parents riches paya pour elle la dépense de l'hôtel. À Paris, il se fit rembourser par le conducteur de la voiture de Troyes en le chargeant de remettre Pierrette dans sa famille et d'y suivre le remboursement, absolument comme pour une caisse de roulage. 4 jours après son départ de Nantes, vers 9 heures, un lundi, un bon gros vieux conducteur des messageries royales prit Pierrette par la main et, pendant qu'on déchargeait dans la grande rue les articles et les voyageurs destinés au bureau de Provins, il amena, sans autre bagage que 2 robes, 2 paires de bas et 2 chemises, chez Mademoiselle Rogron, dont la maison lui fut indiquée par le directeur du bureau. « Bonjour, mademoiselle et la compagnie, » dit le conducteur. « Vous avez une cousine à vous, que voici. Elle est ma foi bien gentille. Vous avez 47 francs à me donner. Quoique votre petite n'en est pas lourde, avec elle, signez ma feuille. » Mademoiselle Sylvie et son frère se livrèrent à leur joie et à leur étonnement. « Pardon, dit le conducteur, mais ma voiture attend. Signez ma feuille. Donnez-moi 47 francs 60 centimes. Est-ce que vous voudrez pour le conducteur de Nantes et pour moi qui avons eu soin de la petite comme notre propre enfant? Nous avons avancé son coucher, sa nourriture, sa place de Provins et quelques petites choses. » 47 francs 12 sous, dit Sylvie. N'allez-vous pas marchander? S'écria le conducteur. Mais la facture, dit Rogron. La facture, vous voyez la feuille. Quand tu feras tes narrés, paye donc, dit Sylvie à son frère. Tu vois bien qu'il n'y a qu'à payer. Rogron alla chercher 47 francs 12 sous. Et nous n'avons rien pour nous, mon camarade et moi, dit le conducteur. Sylvie tira 40 sous des profondeurs de son vieux sac en velours, où foisonnaient ses clés. « Merci, gardez, » dit le conducteur. « Nous aimons mieux avoir eu soin de la petite pour elle-même. » Il prit sa feuille et sortit en disant à la grosse servante, « En voilà une baraque, qui a pourtant des petits crocodiles comme ça, autre part qu'en Égypte. » Bon, « ces gens-là sont bien grossiers, » dit Sylvie, qui entendit le propos. « Dame, si on eut besoin à soi de la petite, » répondit Adèle en mettant ses poings sur ses hanches. « Nous ne sommes pas destinés à vivre avec lui, » dit Rogron. « Mais vous la coucherez, » dit la servante. Telle fut l'arrivée et la réception de Pierrette Lorrain chez son cousin et sa cousine, qui la regardaient d'un air hébété, chez lesquels elle fut jetée comme un paquet et sans aucune transition entre la déplorable chambre où elle vivait à Saint-Jacques auprès de ses grands-parents et la salle à manger de ses cousins, qui lui parut être celle d'un palais. Elle y était interroduite et honteuse. Pour tout autre que pour ses ex-merciers, la petite Bretonne eût été adorable dans sa jupe de bure bleue grossière, avec son tablier de percaline rose, ses gros souliers, ses bas bleus, son fichu blanc, les mains rouges enveloppées de mitaines en tricot de laine rouge, bordées de blanc, que le conducteur lui avait acheté. Vraiment, son petit bonnet breton qu'on lui avait blanchi à Paris, il s'était fripé dans le trajet de Nantes, faisait comme une auréole à son gai visage. Ce bonnet national en fine batiste, garni d'une dentelle roide et plissé par grands tuyaux aplatis, mériterait une description tant il est coquette et simple. La lumière tamisée par la toile et la dentelle produit une pénombre, un demi-jour doux sur le teint. Il lui donne cette grâce virginale que cherchent les peintres sur leur palette et que Léopold Robert a su trouver pour la figure raphaélique de la femme qui tient un enfant dans le tableau des moissonneurs. Sous ce cadre, festonné de lumière, brillait une figure blanche et rose, naïve, animée par la santé la plus vigoureuse. La chaleur de la salle y amena le sang qui borda de feu les deux mignonnes oreilles, les lèvres, le bout du nez si fin, et qui, par opposition, fit paraître le teint vivace plus blanc qu'encore. « Eh bien, tu ne nous dis rien ?» dit Sylvie. « Je suis ta cousine Rogron, et voilà ton cousin. »« Veux-tu manger ?» lui demanda Rogron. « Quand es-tu parti de Nantes ?» demanda Sylvie. « Mais elle est muette, » dit Rogron. Pauvre petite, elle est guère nippée, s'écria la grosse Adèle en ouvrant le paquet fait avec un mouchoir au vieux Lorrain. Embrasse donc ton cousin, dit Sylvie. Pierrette embrassa Rogron. Mais embrasse donc ta cousine, dit Rogron. Pierrette embrassa Sylvie. Elle est ahurie par le voyage, cette petite. Elle a peut-être besoin de dormir, dit Adèle. Pierrette éprouva soudain pour ses deux parents une invincible répulsion, sentiment que personne encore ne lui avait inspiré. Sylvie et sa servante allèrent coucher la petite Bretonne dans celle des chambres au second étage, où Brigaut avait vu le rideau de calicot blanc. Il s'y trouvait un lit de pensionnaire à flèches peintes en bleu, d'où pendait un rideau en calicot, une commode en noyer sans dessus de marbre, une petite table en noyer, un miroir, une vulgaire table de nuit sans porte et trois méchantes chaises. Les murs, mansardés sur le devant, était tendu d'un mauvais papier bleu semé de fleurs noires. Le carreau, mis en couleur et frotté, glaçait les pieds. Il n'y avait pas d'autre tapis qu'une maigre descente de lit en lisière. La cheminée en marbre commun était ornée d'une glace, de deux chandeliers en cuivre doré, d'une vulgaire coupe d'albâtre où buvaient deux pigeons pour figurer les anses, et que Sylvie avait à Paris dans sa chambre. « Seras-tu bien là, ma petite ?» lui dit sa cousine. « Oh, c'est bien beau !» répondit l'enfant de sa voix argentine. « Elle n'est pas difficile, » dit la grosse Briarde en murmurant. « Faut-il pas lui bassiner son lit ?» demanda-t-elle. « Oui, » dit Sylvie, « les draps peuvent être humides. » Adèle apporta l'un de ses serre-têtes en apportant la bassinoire, et Pierrette, qui jusqu'alors avait couché dans les draps de grosses toiles bretonnes, fut surprise de la finesse et de la douceur des draps de coton. Quand la petite fut installée et couchée, Adèle, en descendant, ne put s'empêcher de s'écrier « Mais son butin vaut pas 3 francs, mademoiselle !» Depuis l'adoption de son système économique, Sylvie faisait rester dans la salle à manger sa servante afin qu'il n'y eût qu'une lumière et qu'un seul feu. Mais quand le colonel Gouraud et Vinet venaient, Adèle se retirait dans sa cuisine. L'arrivée de Pierrette anima le reste de la soirée. « Mais il faudra dès demain lui faire un trousseau, » dit Sylvie, « elle n'a rien de rien. » « Bon, n'a que les gros souliers qu'elle a aux pieds et qui pèsent 1 livre, » dit Adèle. « Ah, dans ce pays-là, c'est comme ça, » dit Rogron. Comme elle regardait sa chambre, qui n'est déjà pas si belle pour être celle d'une cousine à vous, mademoiselle. « C'est bon, taisez-vous, » dit Sylvie. « Vous voyez bien qu'elle est enchantée. « Mon Dieu, quelle chemise, mais ça doit lui gratter la peau. « Mais rien de ça ne peut servir, » dit Adèle en vidant le paquet de Pierrette. Maître, maîtresse et servante furent occupés jusqu'à 10 heures à décider en quel percale et de quel prix les chemises, combien de paires de bas, en quelle étoffe et en quel nombre les jupons de dessous, et à supputer le prix de la garde-robe de Pierrette. « Bon, ça ne sera pas quitte à boine 300 francs, » dit à sa sœur Rogron, qui retenait le prix de chaque chose et les additionnait de mémoire par suite de sa vieille habitude. « 300 francs ?» s'écria Sylvie. « Oui, oui, 300 francs, calcul !» Le frère et la sœur recommencèrent et trouvèrent 300 francs sans les façons. « 300 francs d'un seul coup de filet !» dit Sylvie en se couchant sur l'idée assez ingénieusement exprimée par cette expression proverbiale. Pierrette était un de ces enfants de l'amour que l'amour a doué de sa tendresse, de sa vivacité, de sa gaieté, de sa noblesse, de son dévouement. Rien n'avait encore altéré ni froissé son cœur d'une délicatesse presque sauvage, et l'accueil de ses deux parents la comprima douloureusement. Si, pour elle, la Bretagne avait été pleine de misère, elle avait été pleine d'affection. Si les vieux Lorrains furent les commerçants les plus inhabiles, ils étaient les gens les plus aimants, les plus francs, les plus caressants du monde, comme tous les gens sans calcul. À peine Hoël, leur petite fille, n'avait pas eu d'autre éducation que celle de la nature. Pierrette allait à sa guise en bateau sur les étangs. Elle courait par le bourg et par les champs, en compagnie de Jacques Brigaud, son camarade, absolument comme Paul et Virginie. Fêtés, caressés tous deux par tout le monde, libres comme l'air, ils couraient après les 1000 joies de l'enfance. En été, ils allaient voir pêcher, ils prenaient des insectes, cueillaient des bouquets et jardinaient. En hiver, ils faisaient des glissoires, Il fabriquait le joyeux palais, des bons hommes ou des boules de neige avec lesquelles il se battait. Toujours les bienvenus, il recueillait partout des sourires. Quand vint le temps d'apprendre, les désastres arrivèrent. Sans ressources après la mort de son père, Jacques fut mis par ses parents en apprentissage chez un menuisier, nourri par charité, comme plus tard Pierrette le fut à Saint-Jacques. Mais jusque dans cet hospice particulier, la gentille Pierrette avait encore été choyée, caressée et protégée par tout le monde. Cette petite, accoutumée à tant d'affection, ne retrouvait pas chez ses parents tant désirés, chez ses parents si riches, cet air, cette parole, ces regards, ces façons que tout le monde, même les étrangers et les conducteurs de diligence, avait eu pour elle. Aussi son étonnement, déjà grand, fut-il compliqué par le changement de l'atmosphère morale où elle entrait. Le cœur a subitement froid ou chaud, comme le corps. Sans savoir pourquoi, la pauvre enfant eut envie de pleurer. Elle était fatiguée, elle dormit. Habituée à se lever de bonne heure, comme tous les enfants élevés à la campagne, Pierrette s'éveilla le lendemain, 2 heures avant la cuisinière. Elle s'habilla, piétina dans sa chambre au-dessus de sa cousine, regarda la petite place, essaya de descendre, fut stupéfaite de la beauté de l'escalier. Elle l'examina dans ses détails, les patères, les cuivres, les ornements, les peintures, etc. Puis elle descendit, elle ne put ouvrir la porte du jardin, remonta, redescendit quand Adèle fut éveillée et sauta dans le jardin. Elle en prit possession, elle courut jusqu'à la rivière, s'ébahit du kiosque, entra dans le kiosque. Elle eut à voir et à s'étonner de ce qu'elle voyait jusqu'au lever de sa cousine Sylvie. Pendant le déjeuner, sa cousine lui dit « C'est donc toi, mon petit chou, qui trottais dès le jour dans l'escalier et qui faisait ce tapage ? Oh, tu m'as si bien réveillé que je n'ai pas pu me rendormir. Il faudra être bien sage, bien gentil et t'amuser sans bruit. Ton cousin n'aime pas le bruit. Tu prendras garde aussi à tes pieds, dit Rogron. Tu es entré avec tes souliers crottés dans le kiosque. Et tu as laissé tes pas écrits sur le parquet. Ta cousine aime bien la propreté. Une grande fille comme toi doit être propre. Tu n'es donc pas propre en Bretagne? Mais c'est vrai, quand j'y allais acheter du fil, ça faisait pitié de les voir, ces sauvages-là. En tout cas, elle a bon appétit, dit Rogron en regardant sa sœur. On dirait qu'elle n'a pas mangé depuis 3 jours. Ainsi, dès le premier moment, Pierrette fut blessée par les observations de sa cousine et de son cousin, blessée sans savoir pourquoi. Sa droite et franche nature, jusqu'alors abandonnée à elle-même, ignorait la réflexion. Incapable de trouver en quoi péchaient son cousin et sa cousine, elle devait être lentement éclairée par ses souffrances. Après le déjeuner, sa cousine et son cousin, heureux de l'étonnement de Pierrette et pressés d'en jouir, lui montrèrent leur beau salon pour lui apprendre à en respecter les somptuosités. Par suite de leur isolement, et poussé par cette nécessité morale de s'intéresser à quelque chose, les célibataires sont conduits à remplacer les affections naturelles par des affections factices, à aimer des chiens, des chats, des serins, leurs servantes ou leurs directeurs. Ainsi, Rogron et Sylvie étaient arrivés à un amour immodéré pour leur mobilier et pour leur maison qui leur avait coûté si cher. Sylvie avait fini le matin par aider Adèle en trouvant qu'elle ne savait pas nettoyer les meubles, les brosser, les maintenir dans leur neuf. Ce nettoyage fut bientôt une occupation pour elles. Aussi, loin de perdre de leur valeur, les meubles gagnaient-ils? S'en servir sans les user, sans les tacher, sans égratigner les bois, sans effacer le vernis, tel était le problème. Cette occupation devint bientôt une manie de vieille fille. Sylvie eut dans une armoire des chiffons de laine, de la cire, du vernis, des brosses. Elle apprit à les manier aussi bien qu'un ébéniste. Elle avait ses plumeaux, ses serviettes à essuyer. Enfin, elle frottait sans courir aucune chance de se blesser. Elle était si forte. Le regard de son œil bleu, froid et rigide comme de l'acier, se glissait jusque sous les meubles à tout moment. Aussi eussiez-vous plus facilement trouvé dans son cœur une corde sensible qu'un mouton sous une bergère. Après ce qui s'était dit chez Madame Tiphaine, il fut impossible à Sylvie de reculer devant les 300 francs. Pendant la première semaine, Sylvie fut donc entièrement occupée, et Pierrette, incessamment distraite par les robes à commander, à essayer, par les chemises, les jupons de dessous à tailler, à faire coudre par des ouvrières à la journée. Pierrette ne savait pas coudre. « Mais elle a été joliment élevée, » dit Rogron. « Tu sais donc rien faire, ma petite biche. » Pierrette, qui ne savait qu'aimer, fit pour toute réponse un joli geste de petite fille. « Mais à quoi passais-tu donc le temps en Bretagne ?» lui demanda Rogron.
« Je jouais, » répondit-elle naïvement. « Tout le monde jouait avec moi. Ma grand-mère et grand-papa, chacun me racontait des histoires. Ah, l'on m'aimait bien.
« Oh !» répondait Rogron. « Ainsi, tu faisais du plus aisé. » Pierrette ne comprit pas cette plaisanterie de la rue Saint-Denis. Elle ouvrit de grands yeux.
« Elle est sotte comme un panier !»
dit Sylvie à Mademoiselle Borin, la plus humble ouvrière et la plus habile de Provins.
« Oh, c'est si jeune !» dit l'ouvrière en regardant Pierrette, dont le petit museau fin était tendu vers elle, d'un air rusé.
Pierrette préférait les ouvrières à ses deux parents. Elle était coquette pour elles, elle les regardait travaillant. Elle leur disait ces jolis mots, les fleurs de l'enfance, que comprimaient déjà Rogron et Sylvie par la peur, car ils aimaient à imprimer aux subordonnés une terreur salutaire. Les ouvrières étaient enchantées de Pierrette. Cependant, le trousseau ne se complétait pas sans de terribles interjections.
« Cette petite fille va nous coûter les yeux de la tête !» disait Sylvie à son frère. « Mais tiens-toi donc, ma petite, que diable, c'est pour toi, c'est pas pour moi !» disait-elle à Pierrette, quand on lui prenait mesure de quelque ajustement.
« Laisse donc travailler, mademoiselle Borin, c'est pas toi qui paieras sa journée !» disait-elle en lui envoyant demander quelque chose à la première ouvrière.
« Mademoiselle, disait mademoiselle Borin, faut-il coudre ceci en point arrière ?»«
Oui, oui, faites solidement. J'ai pas envie de recommencer encore un pareil trousseau tous les jours. » Il en fut de la cousine comme de la maison. Pierrette dut être mise aussi bien que la petite de madame Garceland. Elle eut des brodequins à la mode, en peau bronzée comme elle en avait la petite Tiphaine. Elle eut des bas de coton très fin, un corset de la meilleure faiseuse, une robe de reps bleu, une jolie pèlerine doublée de taffetas blanc, toujours pour lutter avec la petite de madame Julliard, la jeune. Aussi le dessous fut-il en harmonie avec le dessus, tant Sylvie avait peur de leur examen et du coup d'œil des mères de famille. Pierrette eut de jolies chemises en madrapolam. Mademoiselle Borin dit que les petites de madame la sous-préfète portaient des pantalons en percale brodée
et garni, le dernier genre, enfin. Pierrette eut des pantalons à manchettes. On lui commanda une charmante capote de velours bleu, doublée de satin blanc, semblable à celle de la petite Martenère. Pierrette fut ainsi la plus délicieuse petite fille de tout Provins. Le dimanche, à l'église, au sortir de la messe, toutes les dames l'embrassèrent. Mesdames Tiphaine, Garcelande, Galardon, Auffray, Le Sourd, Martenère, Guépin, Julliard, raffolèrent de la charmante bretonne. Cette émeute flatta l'amour-propre de la vieille Sylvie, qui, dans sa bienfaisance, voyait moins Pierrette qu'un triomphe de vanité. Cependant, Sylvie devait finir par s'offenser des succès de sa cousine, et voici comment. On lui demanda Pierrette, et toujours pour triompher de ses dames, elle accorda Pierrette. On venait chercher Pierrette, qui fit des parties de jeu, des dînettes avec les petites filles de ses dames. Pierrette réussit infiniment mieux que les Rogron. Mademoiselle Sylvie se choqua de voir Pierrette demander chez les autres sans que les autres vinssent trouver Pierrette. La naïve enfant ne dissimula point les plaisirs qu'elle goûtait chez Mme Tiphaine, Martenère, Galardon, Julliard, Le Sourd, Auffray et Garcelan, dont les amitiés contrastaient étrangement avec les tracasseries de sa cousine et de son cousin. Une mère eût été très heureuse du bonheur de son enfant, mais les Rogron avaient pris Pierrette pour eux et non pour elle. Leurs sentiments, loin d'être paternels, étaient entachés d'égoïsme et d'une sorte d'exploitation commerciale. Le beau trousseau, les belles robes des dimanches et les robes de tous les jours commencèrent le malheur de Pierrette. Comme tous les enfants libres de leurs amusements et habitués à suivre les inspirations de leur fantaisie, elle usait effroyablement vite ses souliers, ses brodequins, ses robes, et surtout ses pantalons à manchettes. Une mère, en réprimandant son enfant, ne pense qu'à lui. Sa parole est douce, elle ne la grossit que poussée à bout et quand l'enfant a des torts. Mais, dans la grande question des habillements, les écus des deux cousins étaient la première raison. Il s'agissait d'eux et non de Pierrette. Les enfants ont le flairé de la race canine pour les torts de ceux qui les gouvernent. Ils sentent admirablement, ils sont aimés ou tolérés. Les cœurs purs sont plus choqués par les nuances que par les contrastes. Un enfant ne comprend pas encore le mal, mais il sait quand on froisse le sentiment du beau que la nature a mis en lui. Les conseils que s'attirait Pierrette sur la tenue que doivent avoir les jeunes filles bien élevées, sur la modestie et sur l'économie, étaient le corollaire de ce thème principal. Mais Pierrette nous ruine! Ces gronderies, qui eurent un funeste résultat pour Pierrette, ramenèrent les deux célibataires vers l'ancienne ornière commerciale d'où leur établissement à Provins les avait divertis et où leur nature allait s'épanouir et fleurir. Habitués à régenter, à faire des observations, à commander, à reprendre vertement leurs commis, Rogron et sa sœur périssaient faute de victimes. Les petits esprits ont besoin de despotisme pour le jeu de leurs nerfs, comme les grandes armes ont soif d'égalité pour l'action du cœur. Or, les êtres étroits s'étendent aussi bien par la persécution que par les bienfaisances. Ils peuvent s'attester leur puissance pour un empire ou cruel ou charitable sur autrui, mais ils vont du côté où les pousse leur tempérament. Ajoutez le véhicule de l'intérêt et vous aurez l'énigme de la plupart des choses sociales. Dès lors, Pierrette devint extrêmement nécessaire à l'existence de ses cousins. Depuis son arrivée, les Rogron avaient été très occupés par le trousseau, puis retenus par le neuf de la commensalité. Toute chose nouvelle, un sentiment et même une domination, assez plus à prendre. Sylvie commença par dire à Pierrette « Ma petite ». Elle quitta « ma petite » pour Pierrette tout court. Les réprimandes, d'abord aigres, douces, devinrent vives et dures. Dès qu'ils entrèrent dans cette voie, le frère et la sœur firent de rapides progrès. Ils ne s'ennuyaient plus. Ce ne fut pas le complot d'être méchants et cruels, ce fut l'instinct d'une tyrannie imbécile. Le frère et la sœur se crurent utiles à Pierrette, comme jadis ils se croyaient utiles à leurs apprentis. Pierrette, dont la sensibilité vraie, noble, excessive, était l'antipode de la sécheresse des Rogron, avait les reproches en horreur. Elle était atteinte si vivement que deux larmes mouillaient aussitôt ses beaux yeux purs. Elle eut beaucoup à combattre avant de réprimer son adorable vivacité qui plaisait tant au dehors. Elle la déployait chez les mères de ses petites amies, mais au logis, vers la fin du premier mois, elle commençait à demeurer passive, et Rogron lui demanda si elle était malade. À cette étrange interrogation, elle bondit au bout du jardin pour y pleurer au bord de la rivière, où ses larmes tombèrent comme un jour elle devait tomber elle-même dans le torrent social. Un jour, malgré ses soins, l'enfant fit un accroc à sa belle robe de reps chez Madame Tiphaine, où elle était allée jouer par une belle journée. Elle fondit en pleurs aussitôt, en prévoyant la cruelle réprimande qui l'attendait au logis. Questionnée, il lui échappa quelques paroles sur sa terrible cousine au milieu de ses larmes. La belle Madame Tiphaine avait du reps pareil. Elle remplaça le lait elle-même. Mademoiselle Rogron apprit le tour que, suivant son expression, lui avait joué cette satanée petite fille. Dès ce moment, elle ne voulut plus donner Pierrette à ses dames. La nouvelle vie qu'allait mener Pierrette à Provins devait se scinder en trois phases bien distinctes. La première, celle où elle eut une espèce de bonheur mélangé par les caresses froides des deux célibataires et par des gronderies ardentes pour elle, dura 3 mois. La défense d'aller voir ses petites amies, appuyée sur la nécessité de commencer à apprendre tout ce que devait savoir une jeune fille bien élevée, termina la première phase de la vie de Pierrette à Provins, le seul temps où l'existence lui parut supportable. Ces mouvements intérieurs produits chez les Rogron par le séjour de Pierrette furent étudiés par Vinet et par le colonel avec la précaution de renard, se proposant d'entrer dans un poulailler et inquiet d'y voir un être nouveau. Tous deux venaient de loin en loin pour ne pas effaroucher Mademoiselle Sylvie. Ils causaient avec Rogron sous divers prétextes et s'impatronisaient avec une réserve et des façons que le grand Tartuffe eût admirées. Le colonel et l'avocat passèrent la soirée chez les Rogron, le jour même où Sylvie avait refusé de donner Pierrette à la belle Madame Tiphaine, en termes très amers. En apprenant ce refus, le colonel et l'avocat se regardèrent en gens à qui Provins était connu. « Elle a positivement voulu vous faire une sottise, » dit l'avocat. « Il y a longtemps que nous avons prévenu Rogron de ce qui vous est arrivé. Il n'y a rien de bon à gagner avec ces gens-là. »« Mais qu'attendre du parti antinational ?» s'écria le colonel en refrisant ses moustaches et interrompant l'avocat. « Si nous avions cherché à vous détourner d'eux, vous auriez pensé que nous avions des motifs de haine pour vous parler ainsi. Mais pourquoi, mademoiselle? Si vous aimez à faire votre petite partie, ne joueriez-vous pas le boston le soir chez vous? Est-il donc impossible de remplacer des crétins comme ces Julliards? Villet et moi, nous savons le boston. Nous finirons par en trouver un quatrième. Vinet veut vous présenter sa femme, elle est gentille, et de plus, c'est une chagre-bœuf. Vous ne ferez pas comme ces guenons de la haute ville. Vous ne demanderez pas des toilettes de duchesse à une bonne petite femme de ménage que la famille de sa famille oblige à tout faire chez elle et qui unit le courage d'un lion à la douceur d'un agneau. Sylvie Rogron montra ses longues dents jaunes en souriant au colonel, qui soutint très bien ce phénomène horrible et prit même un air flatteur. Si nous ne sommes que quatre, le boston n'aura pas lieu tous les soirs, répondit-elle. Que voulez-vous que fasse un vieux grognard comme moi, qui n'est plus qu'à m'égranger mes pensions? L'avocat est toujours libre le soir. D'ailleurs, vous aurez du monde, je vous en promets, ajouta-t-il d'un air mystérieux. Il suffirait, dit Vinet, de se poser franchement contre les ministériels de province et de leur tenir tête. Vous verriez combien l'on vous aimerait dans province. Vous auriez bien du monde pour vous. Vous feriez enrager les tiffaines en leur opposant votre salon. Eh bien, nous rirons des autres si les autres rient de nous. La clique ne se jette d'ailleurs guère à votre égard. Comment? Dit Sylvie. En province, il existe plus d'une soupape par laquelle les commérages s'échappent d'une société dans l'autre. Vinet avait su tous les propos tenus sur les Rogron dans les salons d'où les deux merciers étaient définitivement bannis. Le juge suppléant, l'archéologue d'Effondrille, n'était d'aucun parti. Ce juge, comme quelques autres personnes indépendantes, racontait tout ce qu'il entendait dire par suite des habitudes de la province, et Vinet avait fait son profit de ses bavardages. Ce malicieux avocat envenima les plaisanteries de Madame Tiphaine en les répétant. En révélant les mystifications auxquelles Rogron et Sylvie s'étaient prêtés, il alluma la colère et réveilla l'esprit de vengeance chez ces deux natures sèches qui voulaient un aliment pour leur petite passion. Quelques jours après, Vinet amena sa femme, personne bien élevée, timide, ni laide ni jolie, très douce et sentant vivement son malheur. Madame Vinet était blonde, un peu fatiguée par les soins de son pauvre ménage, et très simplement mise. Aucune femme ne pouvait plaire davantage à Sylvie. Madame Vinet supporta les airs de Sylvie et plia sous elle en femme accoutumée à plier. Il y avait, sur son front bombé, sur ses joues de rose du Bengale, dans son regard lent et tendre, les traces de ses méditations profondes, de cette pensée perspicace que les femmes habituées à souffrir ensevelissent dans un silence absolu. L'influence du colonel, qui déployait pour Sylvie des grâces courtisanesques, arrachées en apparence à sa brusquerie militaire, et celle de l'adroit Vinet, atteignirent bientôt Pierrette. Renfermée au logis ou ne sortant plus qu'en compagnie de sa vieille cousine, Pierrette, ce joli écureuil, fut à tout moment atteinte par « Ne touche pas cela, Pierrette !» et par ses sermons continuels sur la manière de se tenir. Pierrette se courbait la poitrine et tendait le dos. Sa cousine la voulait droite comme elle, qui ressemblait à un soldat présentant les armes à son colonel. Elle lui appliquait parfois de petites tapes dans le dos pour le redresser. La libre et joyeuse fille du Marais apprit à réprimer ses mouvements, à imiter un automate. Un soir, qui marqua le commencement de la seconde période, Pierrette, que les trois habitués n'avaient pas vue au salon pendant la soirée, vint embrasser ses parents et saluer la compagnie avant de s'aller coucher. Sylvie avança froidement sa joue à cette charmante enfant, comme pour se débarrasser de son baiser. Le geste fut si cruellement significatif que les larmes de Pierrette jaillirent. « T'es-tu piquée, ma petite Pierrette ?» lui dit l'atroce Vinet. « Qu'avez-vous donc ?» lui demanda sévèrement Sylvie. « Rien, » dit la pauvre enfant en allant embrasser son cousin. « Rien, » reprit Sylvie, « mais on ne pleure pas sans raison. « Qu'avez-vous, ma petite belle ?» lui dit Madame Vinet. « Ma cousine riche ne me traite pas si bien que ma pauvre grand-mère. « Mais votre grand-mère vous a pris votre fortune, » dit Sylvie, « et votre cousine vous laissera la sienne. » Le colonel et l'avocat se regardèrent à la dérobée. « J'aime mieux être volée et aimée, » dit Pierrette. « Eh bien, l'on vous renverra d'où vous venez. »«
Mais qu'a-t-elle donc fait, cette chère petite ?» dit Madame Vinet.
Vinet jeta sur sa femme ce terrible regard fixe et froid des gens qui exercent une domination absolue. La pauvre ilote, incessamment punie de n'avoir pas eu la seule chose qu'on voulut d'elle, une fortune reprit ses cartes.
« Mais ce qu'elle a fait !» s'écria Sylvie en relevant la tête par un mouvement si brusque que les giroflées jaunes de son bonnet s'agitèrent. « Elle sait quoi s'inventer pour nous contrarier. Elle a ouvert ma montre pour en connaître le mécanisme. Elle a touché la roue et a cassé le grand ressort. Mademoiselle n'écoute rien. Je suis toute la journée à lui recommander de prendre garde à tout, et c'est comme si je parlais à cette lampe. »
Pierrette, honteuse d'être réprimandée en présence des étrangers, sortit tout doucement.
Bon, « je me demande comment dompter la turbulence de cet enfant, » dit Rogron.
« Mais elle est assez âgée pour aller en pension, » dit Madame Vinet. Un nouveau regard de Vinet imposa silence à sa femme, à laquelle il s'était bien gardé de confier ses plans et ceux du colonel sur les deux célibataires.
« Voilà ce que c'est que de se charger les enfants d'autrui !» s'écria le colonel. « Vous pouviez encore en avoir à vous, vous ou votre frère. Pourquoi ne vous mariez-vous pas l'un ou l'autre ?»
Sylvie regarda très agréablement le colonel. Elle rencontrait pour la première fois de sa vie un homme à qui l'idée qu'elle aurait pu se marier ne paraissait pas absurde.
« Mais Madame Vinet a raison !» s'écria Rogron. « Ça ferait tenir Pierrette tranquille. Un maître ne coûtera pas grand-chose. »
Le mot du colonel préoccupait tellement Sylvie qu'elle ne répondit pas à Rogron.
« Si vous vouliez faire seulement le cautionnement du journal d'opposition dont nous parlions, vous trouveriez un maître pour votre petite cousine dans l'éditeur responsable. » Nous prendrions ce pauvre maître d'école, victime des envahissements du clergé. Ma femme a raison. Pierrette est un diamant brut qu'il faut polir, dit Vinet à Rogron.
Je croyais que vous étiez baron, dit Sylvie au colonel durant une donne et après une longue pause pendant laquelle chaque joueur resta pensif.
Oui, mais nommé en 1814 après la bataille de Langis, où mon régiment a fait des miracles, ai-je eu l'argent et les protections nécessaires pour me mettre en règle à la chancellerie. Il en sera de la baronnie comme du grade de général que j'ai eu en 1815. Il faut une révolution pour me les rendre.
Si vous pouviez garantir le cautionnement par une hypothèque, répondit enfin Rogron, ben, je pourrais le faire. Mais cela peut s'arranger avec Courmont, répliqua Vinet. Le journal amènera le triomphe du colonel et rendrait votre salon plus puissant que celui des Tiphaine et consorts.
Comment cela? Dit Sylvie.
Au moment où, pendant que sa femme donnait les cartes, l'avocat expliquait l'importance que Rogron, le colonel et lui, Vinet, acquerraient par la publication d'une feuille indépendante pour l'arrondissement de Provins, Pierrette fondait en larmes. Son cœur et son intelligence étaient d'accord. Elle trouvait sa cousine beaucoup plus en faute qu'elle. L'enfant du Marais comprenait très instinctivement combien la charité et la bienfaisance doivent être absolues. Elle haïssait ses belles robes et tout ce qui se faisait pour elle. On lui vendait des bienfaits trop chers. Elle pleurait de dépit d'avoir donné prise sur elle et prenait l'interruption de se conduire de façon à réduire ses parents au silence, pauvre enfant. Elle pensait alors combien Brigaut avait été grand en lui donnant ses économies. Elle croyait son malheur au comble et ne savait pas qu'en ce moment il se décidait au salon une nouvelle infortune pour elle. En effet, quelques jours après, Pierrette eut un maître d'écriture. Elle dut apprendre à lire, à écrire et à compter. L'éducation de Pierrette produisit d'énormes dégâts dans la maison des Rogron. Ce fut l'encre sur les tables, sur les meubles, sur les vêtements, puis les cahiers d'écriture, les plumes égarées partout, la poudre sur les étoffes, les livres déchirés, écornés, pendant qu'elle apprenait ses leçons. On lui parlait déjà, et dans quels termes, de la nécessité de gagner son pain, de n'être à charge à personne. En écoutant ces horribles avis, Pierrette sentait une douleur dans sa gorge. Il s'y faisait une contraction violente, son cœur battait à coups précipités. Elle était obligée de retenir ses pleurs, car on lui demandait compte de ses larmes comme d'une offense envers la bonté de ses magnanimes parents. Rogron avait trouvé la vie qui lui était propre. Il grondait Pierrette comme autrefois ses commis. Il allait la chercher au milieu de ses jeux pour la contraindre à étudier. Il lui faisait répéter ses leçons. Il était le féroce maître d'études de cette pauvre enfant. Sylvie, de son côté, regardait comme un devoir d'apprendre à Pierrette le peu qu'elle savait des ouvrages de femmes. Ni Rogron ni sa sœur n'avaient de douceur dans le caractère. Ces esprits étroits, qui d'ailleurs éprouvaient un plaisir réel à la taquiner, cette pauvre petite, passèrent insensiblement de la douceur à la plus excessive sévérité. Leur sévérité fut amenée par la prétendue mauvaise volonté de cet enfant qui, commencé trop tard, avait l'entendement dur. Ses maîtres ignoraient l'art de donner aux leçons une forme appropriée à l'intelligence de l'élève, ce qui marque la différence de l'éducation particulière à l'éducation publique. Aussi la faute était-elle bien moins celle de Pierrette que celle de ses parents. Elle mit donc un temps infini pour apprendre les éléments. Pour un rien, elle était appelée bête et stupide, sotte et maladroite. Pierrette, incessamment maltraitée en parole, ne rencontra chez ses deux parents que des regards froids. Elle prit l'attitude hébétée des brebis. Elle n'osa plus rien faire en voyant ses actions mal jugées, mal accueillies, mal interprétées. En toute chose, elle attendit le bon plaisir, les ordres de sa cousine, garda ses pensées pour elle et se referma dans une obéissance passive. Ses brillantes couleurs commencèrent à s'éteindre. Elle se plaignit parfois de souffrir. Et quand sa cousine lui demanda
Où? La pauvre petite, qui ressentait des douleurs générales, répondit
« Partout, partout. »
« A-t-on jamais vu souffrir partout? Mais si vous souffriez partout, vous seriez déjà morte, » répondit Sylvie. « On souffre à la poitrine, » disait Rogron, l'épilogueur. « On a mal aux dents, à la tête, aux pieds, au ventre. Mais on n'a jamais vu avoir mal partout. Qu'est-ce que c'est que cela, partout? Avoir mal partout, mais sans avoir mal nulle part. Sais-tu ce que tu fais? Tu parles pour ne rien dire. » Pierrette finit par se taire en voyant ces naïves observations de jeune fille, les fleurs de son esprit naissant accueillies par des lieux communs que son bon sens lui signalait comme ridicules. « Tu te plains, tu as la petite moine, » lui disait Rogron. La seule personne qui ne blessait point cette chère fleur si délicate était la grosse servante Adèle. Adèle allait bassiner le lit de cette petite fille, mais en cachette, depuis le soir où, surprise à donner cette douceur à la jeune héritière de ses maîtres, elle fut grondée par Sylvie. « Il faut élever les enfants à la dure. On leur fait ainsi des tempéraments forts. Est-ce que nous nous en sommes plus mal portés, mon frère et moi ?» dit Sylvie. « Vous feriez de Pierrette une picheline, » mot du vocabulaire rogron pour peindre les gens souffreteux et pleurards. Les expressions caressantes de cet ange étaient reçues comme des grimaces. Les roses d'affection qui s'élevaient si fraîches, si gracieuses dans cette jeune âme et qui voulaient s'épanouir au dehors étaient impitoyablement écrasées. Pierrette recevait les coups les plus durs aux endroits tendres de son cœur. Si elle essayait d'adoucir ces deux féroces natures par des chatteries, elle était accusée de se livrer à sa tendresse par intérêt. « Mais dis-moi tout de suite ce que tu veux !» s'écriait brutalement Rogron. « Tu ne me câlines certes pas pour rien !» Ni la sœur, ni le frère n'admettaient l'affection de Pierrette, et Pierrette était toute affection. Le colonel Gouraud, jaloux de plaire à Mademoiselle Rognon, lui donnait raison en tout ce qui concernait Pierrette. Vinet appuyait également les deux parents en tout ce qu'ils disaient contre Pierrette. Il attribuait tous les prétendus méfaits de cet ange à l'entêtement du caractère breton et prétendait qu'aucune puissance, aucune volonté n'en viendrait à bout. Rognon et sa sœur étaient adulés avec une finesse excessive par ces deux courtisans qui avaient fini par obtenir de Rogron le cautionnement du journal Le Courrier de Provins et de Sylvie 5 000 francs d'action. Le colonel et l'avocat se mirent en campagne. Ils placèrent 100 actions de 500 francs parmi les électeurs propriétaires des biens nationaux à qui les journaux libéraux faisaient concevoir des craintes. Parmi les fermiers et parmi les gens dits indépendants, ils finirent même par étendre leurs ramifications dans le département et au-delà dans quelques communes limitrophes. Chaque actionnaire fut naturellement abonné. Puis les annonces judiciaires et autres se divisèrent entre la ruche et le courrier. Le premier numéro du journal fit un pompeux éloge de Rogron. Rogron était présenté comme le Laffitte de Provins. Quand l'esprit public eut une direction, il fut facile de voir que les prochaines élections seraient vivement disputées. La belle Madame Tiphaine fut au désespoir. « J'ai, » disait-elle en lisant un article dirigé contre elle et contre Julliard, « j'ai malheureusement oublié qu'il y a toujours un fripon non loin d'une dupe, et que la sottise attire toujours un homme d'esprit de l'espèce des renards. »
Dès que le journal flamba dans un rayon de 20 lieues, Vinet eut un habit neuf, des bottes, un gilet et un pantalon décent. Il arbora le fameux chapeau gris des libéraux et laissa voir son linge. Sa femme prit une servante et parut mise comme devait l'être la femme d'un homme influent. Elle eut de jolis bonnets. Par calcul, Vinet fut reconnaissant. L'avocat et son ami Courmand, le notaire des libéraux et l'antagoniste d'Auffray, devinrent les conseils des Rogron auxquels ils rendirent de grands services. Les beaux faits par Rogron père en 1815, dans des circonstances malheureuses, allaient expirer. L'horticulture et les cultures maraîchères avaient pris d'énormes développements autour de Provins. L'avocat et le notaire se mirent en mesure de procurer aux Rogron une augmentation de 1400 francs dans le revenu par les nouvelles locations. Vinet gagna 2 procès relatifs à des plantations d'arbres contre 2 communes, et dans lesquels il s'agissait de 500 peupliers. L'argent des peupliers, celui des économies des Rogron, qui depuis 3 ans plaçait annuellement 6 000 francs à gros intérêts, fut employé très habilement à l'achat de plusieurs enclaves. Enfin, Vinet entreprit et mit à fin l'expropriation de quelques-uns des paysans à qui Rogron père avait prêté son argent et qui s'étaient tués à cultiver et amender leurs terres pour pouvoir payer, mais vainement. L'échec porté par la construction de la maison au capital des Rogron fut donc largement réparé. Leurs biens, situés autour de Provins, choisis par leur père comme savent choisir les aubergistes, divisés par petites cultures dont la plus considérable n'était pas de 5 arpents, loués à des gens extrêmement solvables, presque tous possesseurs de quelques morceaux de terre et avec hypothèque pour sûreté des fermages, rapportèrent à la Saint-Martin de novembre 1826 5 000 francs. Les impôts étaient à la charge des fermiers. Il n'y avait aucun bâtiment à réparer ou à assurer contre l'incendie. Le frère et la sœur possédaient chacun 4 600 francs en 5%, et comme cette valeur dépassait le père, l'avocat les prêcha pour en opérer le remplacement en terre, leur promettant, à l'aide du notaire, de ne pas leur faire perdre un liard d'intérêt au change.